Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau pédalo sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant 30 minutes pour discuter d'actualité locale et ce soir on a reçu Kylian Le Guyader, président de l'association Green Lyme Tour qui a pour but de faire de la prévention autour de la maladie de Lyme mais aussi de la protection de l'environnement à travers une expédition à vélo de 4000 km. Ça sera dans quelques instants avant, en deuxième partie d'émission, de partir du côté de Paris avec un reportage réalisé par Radio Parleur autour de la Pride Radicale qui s'est tenue samedi dernier en opposition à la traditionnelle marche des fiertés, devenue beaucoup plus commerciale. Un reportage d'Hélène Casse pour l'actu des luttes. Très bonne émission à toutes et à tous. L'association Green Lyme Tour a pour but de faire de la prévention sur la maladie de Lyme, mais aussi sur la protection de l'environnement, à travers des expéditions à vélo. Si la première avait eu lieu l'année dernière et avait représenté un parcours de 2000 km à travers 5 pays, la deuxième, qui partira le 3 juillet de Rennes, est encore plus ambitieuse avec un parcours de 4000 km. Pour en discuter, nous sommes avec Kylian Le Guyader, président de l'association et qui, touché par la maladie de Lyme, avait également écrit un livre sur son parcours en 2018. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la maladie de Lyme ? Parce que si on a une vague idée de ce dont il s'agit en général, on n'a pas forcément conscience de tout ce que ça peut...
Oui, alors la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est transmise par les tiques. Et elle est transmise quand la tique vient nous mordre. Et il faut savoir qu'il y a plus de 300 espèces de borreliose. C'est comme ça qu'on appelle la maladie de Lyme en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper compliqué à la diagnostiquer et à la traiter derrière.
Si j'ai un peu compris, si la maladie est repérée rapidement, elle peut être traitée sans trop de gravité derrière.
C'est encore bien plus compliqué que ça. Okay. C'est déjà hyper compliqué à la trouver. Et une fois qu'on sait vraiment que c'est Lyme, il y a tellement de souches différentes que pour trouver un traitement hyper efficace, surtout en France, c'est vraiment hyper compliqué.
Toi, tu avais vu quelques complications que les médecins qui t'avaient examiné ont mis du temps avant de trouver ce dont il s'agissait.
Oui, j'ai eu un an d'errance médicale, j'ai changé plusieurs fois de médecin traitant, je suis allé à l'hôpital plusieurs fois et à chaque fois je repartais avec soit un doliprane ou soit on m'a diagnostiqué une tumeur, donc totalement rien à voir en fait.
Et ensuite, une fois que ça a été diagnostiqué, par contre, tu as pu avoir un traitement efficace au bout d'un certain temps ou là ça a été compliqué pour toi aussi ?
J'ai pris un peu de temps aussi derrière parce que j'ai fait un premier traitement de 3 mois qui n'a absolument pas marché. J'en ai recommencé un deuxième qui, celui-ci, a marché, mais le premier mois c'était encore plus compliqué qu'avant au niveau des symptômes, beaucoup plus fatigué. Et c'est comme ça en fait qu'on guérit, c'est en traitant le mal par le mal. Et c'est qu'après un mois et demi que j'ai commencé à aller de mieux en mieux et j'ai dû mettre un an à récupérer de la plupart de mes symptômes et encore un an derrière pour tous les éradiquer quoi.
Et c'est un peu tout ça qui t'avait poussé à écrire ce livre donc qui était Lyme un combat pour apporter ton témoignage et pour peut-être permettre à des gens d'éviter des complications.
Alors au début pas du tout, c'était okay. Juste pour tourner la page sans jeu de mots et c'est une amie qui m'a dit pourquoi pas t'en ferais pas un livre pour faire de la prévention sur la maladie de Lyme et pour en parler vu que c'est pas du tout connu. Enfin, en tout cas à ce moment-là c'était pas vraiment connu, on en fait un peu plus maintenant. Mais c'est comme ça que m'est venue l'idée et je l'ai essayé de l'arranger un peu plus pour que ce soit un livre et voilà, il a été publié il y a deux ans maintenant.
Et toi donc c'est également la pratique sportive qui t'a aidé à avancer aussi
Oui totalement, parce qu'avant il fallait savoir que je faisais 5-6 entraînements par semaine alors que j'étais au collège et du jour au lendemain avec Lyme j'arrivais même plus à monter les escaliers et c'était juste la perspective de pouvoir recourir qui m'a boosté et qui m'a permis de tenir et avancer contre la maladie de Lyme, oui.
Après l'idée de l'association et de faire ces expéditions à vélo, ça s'est venu naturellement après par là.
Alors non, parce que c'est arrivé très tard. Okay. Et c'est juste en cours de droit international qu'un professeur nous a parlé de faire un voyage à l'étranger ou en France à vélo pour valoriser notre CV en quelque sorte. Et puis moi je me suis dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt pour Lime et l'environnement, pas pour mon CV mais juste pour Lime vraiment. Et le soir même j'ai cogité énormément et dans la nuit j'ai envoyé un message à mon meilleur ami et je lui ai dit vas-y, faut qu'on parte à vélo, faut qu'on fasse ça cet été.
Comment ça s'était passé? Donc l'année dernière c'était la première, ça a dû être quand même déjà une bonne logistique pour voilà, préparer ce parcours de 2000 km.
C'était hyper compliqué à organiser, sachant qu'on n'avait jamais voyagé de la sorte. Enfin, je voyage toujours avec mes parents et pas tout seul, sans savoir où on va dormir, en tente, chez l'habitant ou autre. Et donc les 2000 km, surtout à travers 5 pays, c'était un peu compliqué à organiser, mais finalement on s'est juste éclaté, on a fait pas mal de prévention, on est passé dans pas mal de médias, donc on a vraiment réussi à faire ce qu'on voulait faire.
Sur une partie du trajet, vous aviez été logé chez des personnes également touchées par la maladie. Toi, tu travailles sur ce projet avec d'autres associations qui agissent sur ce sujet. Ça permet, via ces parcours aussi, de créer des liens, d'avoir d'autres témoignages et de pouvoir continuer à en parler.
Oui, c'est ça. On a essayé de créer des contacts avec d'autres associations pour avoir plus d'informations aussi sur Lyme, comme Lyme Sans Frontières, Chrony Lyme, plein d'autres associations aussi environnementales, comme France Nature Environnement, qui nous ont beaucoup aidés sur l'environnement. Et grâce à eux, on a pu trouver des points relais pour dormir, même aller dormir du coup chez des gens qui ont eu Lyme, pour parler avec eux, échanger. C'est valorisant aussi pour les associations avec lesquelles on discute. Et puis même les gens chez qui on dort, ils apprennent des choses, on apprend aussi des choses, donc c'est hyper valorisant.
Donc effectivement, tu l'as évoqué, donc vous êtes également en collaboration avec France Nature Environnement, vous aviez fait des collectes de déchets l'année dernière. Comment ça s'est rajouté au projet, cette dimension écologique?
Parce qu'il y a un lien en fait entre l'environnement et Lyme, et avec mes amis on est assez touché par l'environnement et le devenir de la France au niveau écologique, etc. Et on s'est dit pourquoi pas lier les deux, comme il y a un lien entre Lyme et l'environnement, puisqu'il faut savoir que le réchauffement climatique joue aussi sur la prolifération des tiques, notamment aussi les prédateurs des tiques comme les renards ou les lynx, qui joue du coup sur les rongeurs et ainsi de suite, et la chaîne se continue comme ça. Et du coup on s'est dit pourquoi pas faire les deux et se battre sur les deux causes en même temps.
Et donc pour cette deuxième édition dont tu vas partir dans quelques jours, le parcours a doublé. L'idée c'était suite au succès j'imagine de la première année, d'avoir un impact et des soutiens peut-être plus importants en faisant perdurer ce projet.
L'objectif du Green Lime Tour, ce serait de perdurer chaque année. Et cette année, pour 2021, on voulait faire la traversée de l'Europe, mais avec le Covid un peu plus compliqué, on devait passer au moins 15 frontières, donc trop compliqué à gérer avec les tests, etc. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un tour de la France et faire 2-3 pays à côté pour allonger un peu. Et donc maintenant ce sera pas 4000 km mais 4500 km en 2 mois.
Comment ça s'est passé? Donc là, avec déjà l'expérience de l'organisation de l'année dernière, c'était plus simple, ou est-ce que avec un trajet doublé, c'était d'autant plus de questions aussi?
C'était à la fois plus simple et plus compliqué. Plus simple parce que maintenant on sait comment organiser pour savoir où dormir, pour le tracer pour nous et pour le diffuser sur les réseaux. Mais comme c'est beaucoup plus long, forcément c'est plus compliqué. Et puis chaque année, on voudrait aussi multiplier nos partenaires. Comme là maintenant cette année on part avec Subisport, avec SecuWork et Casque, et on aimerait bien aussi l'année prochaine encore en rajouter, mais c'est beaucoup de travail, surtout que c'est qu'une petite association au final et qu'on n'est pas beaucoup au bureau.
Là cette année tu pars avec ta mère, si j'ai bien compris, qui était elle aussi touchée par la maladie.
Oui, elle a été touchée aussi, mais à moindre échelle, donc c'est pour ça aussi que maintenant elle peut repartir avec moi, malgré qu'elle soit plus âgée que moi en fait.
Tu as déjà planifié un peu, j'imagine, un certain nombre de choses, que ce soit des actions de collecte, que ce soit des actions de sensibilisation, ou ça se fait un peu aussi au fur et à mesure quand même?
Ça se fait beaucoup au fur et à mesure. Après, on a déjà pas mal de contacts sur la route, notamment surtout pour tout ce qui est environnement. On va essayer de parler du bio, quels sont les impacts sur l'environnement quand on consomme du bio. Je sais qu'on va aussi rencontrer une association pour les renards, pour expliquer les bienfaits des renards par rapport aux tiques, comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a pas mal de rendez-vous comme ça qu'on a prévu, on attend encore des réponses, et je pense que ça va surtout démarrer à partir du moment où on va démarrer le projet et que ça sera bien médiatisé. C'est toujours comme ça que ça, ça commence.
Pour soutenir ce projet, pour soutenir l'association, tu as lancé un appel aux dons via votre page Hello Asso, et il y a plusieurs moyens de vous soutenir, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, soit en devenant adhérent à l'association, ce qui est beaucoup plus avantageux pour nous, parce que ça nous permettrait de vous envoyer des mails directement pour savoir par où on passe, par où on veut trouver des logements, et là où on a besoin de personnes pour participer à des collectes de déchets, par exemple. Donc ça, c'est une première façon. La deuxième façon, c'est en participant à la cagnotte qui, je le rappelle, sera pour aider vraiment les malades de Lyme et pour organiser une plantation d'arbres plus tard, l'année prochaine, j'espère.
Comment ça s'était passé? Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui s'étaient déjà jointes à vous sur le parcours pour rouler avec vous sur certaines portions du trajet? Est-ce que si des personnes veulent vous rejoindre, c'est assez, enfin, ça s'était fait ou pas?
Alors l'année dernière, c'était vraiment entre nous. C'était juste avec deux amis au début et puis après un seul ami jusqu'au bout, jusqu'à Munich. Et cette année, on fait un appel surtout pour le mois d'août pour que les joueurs puissent nous rejoindre. Comme c'est assez long et qu'en moyenne, il y a 80 km par jour, je ne sais pas si ma mère pourra tenir jusqu'au bout, ni moi-même. Donc, s'il y en a un qui lâche, on aurait bien avoir des gens à nous rejoindre pour accompagner la dernière personne qui reste pour aller jusqu'au bout, en fait.
Et alors, pour suivre toutes les actualités, tu disposes de réseaux
Oui, sur Facebook et Instagram, c'est Green Lime Tour, ou sinon sur notre page internet sur Hello Asso, qui explique très bien notre projet.
Et après, pour la suite, l'idée, c'est d'avoir des actions similaires chaque été, et ou de développer également. Est-ce que tu as d'autres idées, d'autres projets qui pourraient venir?
Alors, pour l'instant, non, à part faire un voyage chaque année pour continuer ce qu'on fait. Après, je sais que je pourrais pas faire ça éternellement, donc j'espère. Déjà, l'organisation, enfin, l'association a été créée, le compte bancaire a été créé, tout est fait. Donc, après, si plus tard il y en a qui voudront prendre ma place et continuer à voyager à ma place et faire de la prévention comme nous on le fait cette année, j'aimerais bien passer le relais après plus tard.
Est-ce qu'il y aurait un dernier mot que tu voudrais ajouter? Est-ce qu'on aurait oublié un détail, quelque chose?
Non, hormis que je donne toute ma force à toutes les personnes qui sont atteintes de la maladie de Lyme.
Merci beaucoup, Kylian, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Merci. Radio
Parleur. Salut, c'est Sophie, je travaille pour Radio Parleur et on a besoin de toi pour soutenir notre média. File sur radioparleur.net/don et donne-nous quelques sous.
Allez, allez les loulous, on rentre par deux, tout le monde sur radioparleur.net/don.
Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez L'Actu des Luttes, votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Et pour ce nouvel épisode, on plonge ensemble dans le cortège de la Pride radicale à Paris. C'était l'événement ce samedi 20 juin, une manifestation organisée en opposition à la traditionnelle marche des fiertés prévue elle ce dimanche 26 juin, une marche qui défile depuis 1981 dans les rues de la capitale. Présence de marques commerciales ou encore de l'association de policiers LGBT nommée FLAG, cela fait en fait plusieurs années que les critiques se multiplient contre cet événement, un événement organisé par le collectif d'associations inter-LGBT. Ce 20 juin, pour cette contre-pride, des milliers de personnes ont défilé à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Dans ce reportage de l'Actu des luttes, on tend donc le micro à celles et ceux qui portent l'organisation de cette nouvelle marche. À celles et ceux aussi qui ont défilé ce 20 juin sous le soleil de la capitale, des manifestants et des manifestantes qui revendiquent une chose, leur engagement antiraciste et anticapitaliste pour les droits des personnes LGBTQIA+.
C'est dans la rue, ça se passe. C'est dans la rue.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
C'est dans la rue, ça se passe.
On est dans le 13e, dans le local du BAM. En gros, c'est un atelier pancarte et pour préparer des banderoles.
Là, ici, ce qu'on va faire sur le noir, là, c'est dilater et régulariser.
D'accord.
À l'impératif, à la deuxième personne du pluriel.
Ok, impeccable. Vous allez apporter?
Comment?
Ah,
écoute, si t'es pas solidaire, on le fait pas, hein. Elle est pas pour la dilatation et la régularisation.
Le BAM, c'est le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Il faut savoir que dimanche 20, c'est la Journée mondiale des réfugiés. Et c'était très important pour nous que le lien soit fait entre la communauté LGBTQIA+, qui est une communauté très invisibilisée, et les demandeurs d'asile et les sans-papiers et les réfugiés. Parce que finalement, qui sont les plus invisibilisés dans la société française à l'heure actuelle ? Les personnes racisées, y compris les personnes demandeuses d'asile, réfugiées et sans papiers, et les personnes LGBTQIA+, y compris racisées. Nous, on est une association soutien et d'aide aux migrants, mais aussi on a un pôle LGBT+, qui est un pôle communautaire. Et donc, c'était normal de lier les deux. Par ailleurs, on a toujours été plutôt très critiques à l'égard de la marche organisée par l'Inter. On ne s'y reconnaît pas. Moi, je ne vais pas manifester à côté des flics du flag et à côté des gens qui expulsent les sans-papiers d'Air France. C'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas à la fois être ami et ennemi dans la même semaine. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas être dans les aéroports et demander la libération immédiate des personnes et danser et chanter avec les personnes qui font ce job-là et qui touchent des primes parfois pour le faire. Donc c'était hyper important pour nous. J'avoue que c'est assez rare de trouver aussi dans un collectif d'organisation, moi ça fait assez longtemps que je milite, et c'est assez rare de trouver une telle écoute et une telle bienveillance pour les revendications sur les sans-papiers et les demandeurs d'asile. C'est assez rare en fait. Et on n'a pas eu à se battre, on n'a pas eu à imposer, ça est venu tout seul et c'est hyper chouette, ça change beaucoup. Donc, c'était évident qu'une marche LGBTQI+, anti-raciste et anti-capitaliste, on allait être présent.
On est révolutionnaire et on est queer, vénère et révolutionnaire.
J'ai 21 ans et je viens du PQA, Paris Queer Antifa. Le PQA, c'est un jeune collectif qui milite depuis à peu près 4 mois. On est à peu près genre une vingtaine de personnes queer, on se connaît un peu plus. On a commencé par militer pour notre camarade et ami Guillaume qui est décédé là il y a 4 mois. On milite un peu pour les violences sexistes et sexuelles dans le milieu antifa et pour les causes LGBT. Au début, on avait été conviés à faire des réunions avec encore beaucoup plus de collectifs, etc. Pour justement organiser soit une contre-pride ou soit justement un cortège ou des actions le même jour. Puis au fil des réunions, etc., le cercle s'est un peu rétréci et puis on s'est mis d'accord sur une pride après, enfin un autre jour du coup. Et après, on s'est mis un peu d'accord sur le mot d'ordre, etc. Et ce qui a fait que maintenant, c'est antiraciste, anticapitaliste. Du coup, l'après du vin, il y aura des revendications, en même temps, enfin, un esprit de fête. Ça va pas être que genre des revendications, et puis genre, on va pas sortir les torches, et puis les fourches. Du coup, enfin, il y a vraiment le truc un peu plus déter et un peu plus, déter et en colère. Du coup, genre, ça fait un peu plaisir à retrouver, en même temps se dire qu'on n'est pas seul à être en colère et que genre quand on est à la Pride du 26 par exemple, on peut se dire que genre tout va bien dans le monde. Et que, enfin, c'est vraiment l'impression qu'on a, genre on est là pour faire la fête, tout va bien, genre enfin tout est acquis alors que pas du tout. Et donc du coup, enfin il y a vraiment genre ce côté-là qu'on retrouvera à la Pride du vent, j'espère. Et qui fait qu'on on arrête aussi. En fait, on ne veut pas marcher avec des personnes qui nous oppriment, etc. Déjà, d'habitude, les jeunes avec Macron, La République En Marche sont présents à la Pride, comme le flag aussi, qui est les personnes LGBT de la police. Il y avait aussi, les autres années, l'association personnelle. C'est le personnel de Air France.
Non, sont pas juste, sont pas les camarades. Et non, le flag, sont pas des camarades.
Ok, vas-y. Et non, le flag, sont pas des camarades. 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 À cab.
Du coup, je m'appelle Paolé, je suis une meuf trans de 22 ans. Butch est grosse et folle. Et du coup, aujourd'hui, on est là avec le flirt à la Pride radicale. Le flirt, c'est le front de libération intersectionnelle radicale transféminin. En gros, on est des meufs trans précarisées nous auto-soutenons avec d'autres meufs trans précarisées sur des questions comme les demandes d'asile, le soutien psy safe, les aides urgentes financières pour la nourriture, etc. et l'accès aux hormones. Et du coup, bah, on est là aujourd'hui pour nous faire connaître parce qu'on est un jeune collectif, pour marcher avec nos adelphes et pour protester contre l'état raciste, l'état lesbophobe, l'état homophobe, l'état transphobe. Du coup, voilà. Et accessoirement pour lever des fonds pour notre cagnotte qui nous permet de financer nos actions.
Nous sommes confrontés à vivre sans papier ou à rentrer dans la logique de catégorisation du tri des bons ou des mauvais migrants. À travers la multiplicité des titres de séjour existant en France, tu peux être sans papier, titre de séjour étudiant, métier récépissé, tu peux être un travailleur, mais tout simplement tu peux être une personne qui n'existe pas. Tout cela grâce à des politiques hostiles de plus en plus d'accueil envers les migrants en France. Pendant le gouvernement d'Emmanuel Macron en 2018, la loi des demandeurs d'asile a été réformée et bien sûr, après cela, tout ce que c'est l'accès à la santé, il y a des autres services publics. L'accès à la santé est assez complexe et de plus en plus pour les personnes LGBTQIA+, migrantes. On peut le constater en regardant l'année 2020. Grâce à la crise sanitaire, plusieurs femmes trans migrantes sont décédées ou assassinées et plusieurs PD ont été hospitalisés dans des états graves de santé ou expulsés des territoires français avec l'angoissante QTF. Personnes concernées par le VIH surtout, des mecs PD. Notre collectif Maricolandia veut mettre en lumière que pendant cette année 2021, plusieurs de nos camarades PD sont hospitalisés avec des graves diagnostics de santé et nous nous battons pour qu'ils ne tombent pas.
Ok, du coup moi c'est Musk, je suis dans le collectif Entarajel. C'est un collectif en non-mixité avec les personnes de la diaspora nord-africaine. On est en double non-mixité, du coup diaspora nord-africaine, et femmes ou minorité de genre. Et on agit sur pas mal de pôles, on agit notamment sur l'islamophobie, sur le pôle LGBTQIA+, du coup le pôle queer. Alors du coup, comme dit dans l'appel, on a décidé de marcher entre nous avec nos revendications en tant que, pour une grosse partie, personnes racisées, personnes minorisées sur plusieurs plans. Et c'est important pour nous, Entarajel, de marcher pour cette Pride, d'avoir nos propres milieux, nos propres organisations et créer nos propres réseaux tout simplement pour démonter les monopoles comme l'Inter, qui non seulement est un monopole, mais avec énormément de choses problématiques à l'intérieur de ce monopole depuis des années, comme l'acceptation des policiers avec le flag, l'acceptation des marques capitalistes qui, une fois l'an, décident de bien vouloir marcher avec nous et de promouvoir leurs marques. C'est aussi des personnes qui soutiennent l'État actuel et le gouvernement actuel et tout ce qui s'y passe. Et comme j'ai dit, du coup, nous sommes des personnes racisées, nous vivons le racisme, mais il y a aussi beaucoup de personnes musulmanes au sein de notre collectif, dont moi. Et du coup, au niveau de l'islamophobie, avec énormément de lois islamophobes qui sont passées, qui restreignent énormément les personnes qui portent le voile, notamment. Et du coup, c'était très important pour nous de participer, de porter notre voix dans une marche sans policiers, sans partis politiques, que ce soit des partis politiques d'extrême droite ou de gauche, parce que les deux, même combat en fait finalement. Alors l'an dernier, il y a eu une Pride qui a aussi été organisée, c'était un peu la première fois, c'était sans l'Inter. Celle de l'Inter avait été annulée, je pense, par rapport à la pandémie. Et du coup, il y a eu celle de l'année dernière qui a été énormément portée par les personnes racisées. Et cette année, on a voulu refaire la même chose, mais en mieux, avec plus d'accessibilité, avec plus nos revendications, Et dans la lignée, dans la juste lignée de cette Pride qui a émergé l'année dernière. Ça fait des années et des années qu'on revendique les choses par rapport à l'Inter, qu'il y a eu soit très peu de changements, et pour nous ça ne nous convient pas en fait ce peu de changements. C'est toujours un monopole, c'est toujours organisé par les mêmes personnes, soit en général les hommes gays blancs, qui va dire qu'ils sont assez ouverts d'esprit pour pouvoir nous accueillir et pour pouvoir prendre nos revendications, etc. Ce qui n'est pas le cas, c'est ouvert aux associations, nous sommes un collectif de personnes racisées. Nos revendications ne sont jamais prises en compte et elles n'auraient pas été prises au niveau de l'Inter. Il n'y a eu aucun effort pour inclure les personnes racisées, les personnes handies, etc. Depuis des années, du coup on n'attend plus, on fait ça nous-mêmes. Et même c'est bien mignon d'avoir quelques mots pour dire qui elles allaient le faire ou qui elles pourraient le faire, mais on attend et on le fait. Déjà, il faut revenir au début des Pride avec les émeutes de Stonewall qui ont été menées par des femmes et personnes transféminines racisées et noires et racisées. Des personnes en fait qui doivent émerger en fait aussi le mot queer qu'on connaît aujourd'hui. Et ce sont des émeutes et ça a duré quelques années avant de prendre en fait cet effet de parade un peu, cet effet moins politisé ou alors politisé mais du côté du pouvoir finalement. Et aujourd'hui, on essaie de reprendre ça, de reprendre la main là-dessus, en gardant l'esprit de la marge de fierté et en la rendant la plus accessible. Mais ça, c'est la base. En fait, c'est pas censé être radical. On essaie de rendre la marche plus accessible à toutes les personnes les plus minorisées. Et notre radicalité vient des revendications antiracistes et anticapitalistes que l'on a.
Nous, les personnes de Marie-Colombe, dénonçons la loi de pénalisation des clubs parce qu'il y a des garçons qui sont travailleurs du sexe ou des femmes trans qui sont travailleurs du sexe aussi. Et la pénalisation du club nous met en danger. Nous dénonçons aussi la manière dans laquelle les PD, migrants, latinos ou autres, sont aperçus en vivant des violences parmi la communauté des gays, cis, blancs, qui nous exotisent et qui nous exercent nos violences en profitant de l'opposition de pouvoir contre nous. Nous dénonçons que nous résistons à des logiques blanches et coloniales d'homosocialisation envers nous. Nous gardons de l'espoir. Nous sommes l'unique collectif de migrants PD qui existe à Paris depuis quelques années. Mais on garde de l'espoir parce qu'avec nos sœurs et nos frères racisés, on est en train de construire quelque chose. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'il faudrait que finalement on nous entende nous voir, à nous, subalternes. Il y a des années que nous sommes invisibles, mais nous sommes toujours là dans le terrain. Nous nous déchirons à travailler sur le terrain. On sommes invisibles. Les grandes entreprises humanitaires nous voient seulement comme des sujets à prendre en charge, mais pas comme des acteurs de nos luttes. Mais nous sommes là, nous apprenons et nous sommes capables de résister à toutes ces logiques de domination. Et nous sommes là. La preuve. Pour celle-là, et on doit être fier de cette putain de journée. Je m'appelle Guari Guaricha de Los Andes et je vais vous montrer une chanson qu'on a construite avec ma collectif pour dénoncer tout ce qu'on vit en étant des corps migrants.
Combino mi barba con tacones rojos, camino segura y a todos antojo.
Le reportage d'Eline Cass à la Pride Radicale organisée ce samedi 20 juin, un événement en opposition avec la Gay Pride prévue elle ce dimanche 26 juin à Paris. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre les enjeux politiques et sociaux qui se jouent actuellement pour les personnes LGBTQIA+. Pour aller plus loin, vous retrouvez nos reportages et entretiens précédents sur nos chaînes podcast L'Actu des Luttes et Penser les Luttes. Pour ne rien rater, vous vous abonnez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, en fait, toutes les plateformes et applis de podcast. Nous, on se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode. On va continuer ensemble à explorer le combat des personnes queer, mais cette fois en Bretagne et surtout dans le milieu rural. On a hâte de vous faire écouter ça. D'ici là, passez une très belle fin de semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut!
plus qu'un PD, je suis plus qu'un migrant.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
Guaricha, les cons sont les mecs.
Guaricha, guaricha, jamame, marica, guaricha, guaricha. Tu me limitas, guaricha, guaricha. Pelmo a tapet, guaricha, guaricha, les cons sont les mecs.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Très belle soirée sur Radio Campus.